Il y a certains textes qui sont. Bah, enfin, toutes les slides sont en anglais, mais on va essayer une traduction à la volée derrière. Alors, ça commence bien. Tu me donnes ça. Voilà, j'ai ma mobilité. Donc, je me présente rapidement, Mathieu Farcot. Je suis étudiant en première année de doctorat en sciences économiques. Et ce doctorat que je fais conjointement entre le Centre de recherche publique Henri Tudor, sur le Luxembourg, et la faculté Louis Pasteur à Strasbourg. Au niveau de la faculté des sciences économiques. Donc, je voulais commencer mon histoire et ma présentation en vous racontant. Bah, je cache, j'ai lancé le truc. Donc, je voulais vous commencer. Donc, je vais vous commencer ma présentation en vous présentant la problématique au travers d'une petite histoire, tout simplement. Et puis, comme des petites histoires, comme n'importe quelle petite histoire, eh bien, elle commence par Il était une fois. Alors, voilà. Il était une fois, dans un joyeux royaume tangible, un ressortissant, un personnage, Monsieur X, qui déménagea dans un nouveau bâtiment, dans un nouvel appartement. Il acheta tout un ensemble de meubles dans une boutique, et parmi d'autres choses, il choisit une table, magnifique table. Il défait ses paquetages une fois arrivé de retour, une fois à la maison, pour réaliser à ce moment-là, une fois chez lui, que ben, raté, la table en question avait des pieds trop longs. Que faire? En l'occurrence, 18h, 19h30, le temps qu'il soit rentré chez lui était passé, la boutique était fermée, bien évidemment. Il aurait pu choisir de faire usage de sa dentition pour essayer de raccourcir la hauteur des pieds de la table, mais en lieu et place, considéra que, de manière un peu plus sage, qu'un outil pourrait lui être quelque peu plus utile dans cette modification. Alors il regarda quels étaient les outils qu'il avait à sa propre disposition et il trouva une tronçonneuse. Alors, en mettant de côté l'échec complet relatif à l'aspect esthétique de l'opération qu'il allait entreprendre, il débita les pieds et notre histoire se termina magnifiquement bien. Alors, trois choses dans mon petit modèle économique là. Déjà, on a une industrie, l'industrie des meubles, qui est contente d'avoir vendu une table. Première chose. Le design de la table en lui-même est protégé par le droit d'auteur, mais Monsieur X a le droit de couper les pieds comme il l'entend. Pour quelle raison? Parce que cette table qu'il a achetée est sienne. C'est un objet tangible qu'il possède. Qui plus est, l'industrie manufacturière des tronçonneuses a le droit de vendre à Monsieur X un produit qui permet de telles actions, que la modification de cette forme de la table, même si jamais il est exact que le résultat final ne sera pas précisément utilisé comme un produit de publicité pour leur prochaine campagne marketing mondiale. Maintenant, vous ouvrez cette porte avec la clé de votre imagination. De l'autre côté, il y a une autre dimension, une dimension du son, une dimension de la vue, une dimension de l'esprit. Vous bougez dans une terre à la fois d'ombre et de substance, de choses et d'idées. Vous venez de traverser la frontière pour arriver à la quatrième dimension. Donc, de Rod Sterling, la quatrième dimension, 5965, copyright CBS. Enfin, j'insiste dessus parce qu'on va y venir après. Bienvenue dans le monde intangible, mon ami. Où notre fabricant de table va pouvoir lancer un procès contre Monsieur X pour avoir ainsi mordu sur la propriété, enfin son propre design qui est copyrighté derrière, protégé, mais surtout qui va pouvoir faire un procès contre notre firme créatrice de tronçonneuses parce que la firme créatrice de tronçonneuses va avoir offert un outil qui permet le contournement de design protégé par le droit d'auteur. D'accord? En assumant, bien sûr, que le découpage de pieds de table est la principale utilisation absolument nécessaire qu'un n'importe quel acheteur de tronçonneuse va réaliser. Ça, on l'assume totalement. Et d'ailleurs, quel pourrait en être un autre usage? On peut se poser la question, franchement. Non, mais franchement. Alors, quelles sont les règles? Profit maximum pour les ayants droit au niveau droit d'auteur. Perte maximale pour tous les autres acteurs de l'économie et très bon profit pour nos juristes de la propriété intellectuelle qui vont pouvoir avoir un marché relativement important de procès potentiels sous-jacents. Mais est-ce que les règles qui s'appliquent dans notre monde tangible et les règles qui s'appliqueraient dans notre monde intangible seraient exactement les mêmes et seraient perceptibles exactement de la même manière? On a une réponse, bien sûr, non. Pourquoi? On va recommencer la petite histoire, faire usage de votre imagination débordante. Imaginons donc Monsieur X, sa merveilleuse tronçonneuse à la main. Malheureusement, vous, là, tout penaud, vous n'en avez pas. Alors imaginez que Monsieur X vienne à vous et vous offre sa tronçonneuse, parce que vous aussi, vous avez un problème de table. Généreux, Monsieur X. Résultat, Monsieur X va devoir utiliser un autre outil pour débiter sa prochaine table, son prochain achat, parce que, de par la nature précise de cet outil, une real sharp, ça commence, une très bien affûtée, très bonne aiguisée, une tronçonneuse très bien affûtée, très tangible et très aiguisée. Donc, ce qui va être démontré par une arithmétique de pointe que j'ai utilisé comme que j'ai qualifié d'arithmétique de la tronçonneuse, 1 moins 1 égale 0, en l'occurrence pour Monsieur X. D'accord ? Donc, il a une tronçonneuse, il vous moins donne une tronçonneuse, donc il a 0 tronçonneuse en sa possession. Maintenant, deuxième partie de notre explication du pourquoi, le retour. Alors, vous avez donc cette tronçonneuse, mais vous ne savez pas quoi faire avec. Heureusement pour vous, Monsieur X, décidément, qui est le personnage incontournable, a une idée. Donc, notre super généreux Monsieur X va encore faire don de cette idée à vous-même. Résultat, maintenant vous avez une idée, celle de Monsieur X. Bien sûr, ça reste aussi son idée derrière. Donc, on retourne à notre arithmétique de la tronçonneuse, 1 moins 1 égale 2. En l'occurrence, il y a eu don d'une idée, donc parce que c'est un élément intangible, création derrière de deux idées. Chacun repart avec son propre idée. Il n'y a pas eu d'appropriation à proprement parler, pas de don de scission. Alors, petite question. Est-ce que mon arithmétique de la tronçonneuse est folle ou tout simplement complètement inutile? Et est-ce que la connaissance de la tronçonneuse pourrait signifier quelque chose d'utile, un minimum quand même, histoire de justifier ma présence ici devant vous? Mais qu'est-ce que la connaissance exactement, finalement? La connaissance est un acte balancé, tel que issu de l'économie de la connaissance. On pourrait voir ça comme, un élément balancé entre un élément de codification que l'on pourra qualifier de quantification de l'état de disclosure, d'extériorisation, de présentation, et l'incorporation, au contraire, l'aspect tacite, qui est très difficilement quantifiable par lui-même et qui est lié à la pratique. Un exemple d'une connaissance extrêmement tacite, c'est l'apprentissage de la bicyclette. Vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez pour apprendre à rouler sur une bicyclette. S'il y a bien une chose qu'il faut faire, c'est apprendre en pratiquant, parce que forcément, vous casserez la gueule la première fois. Alors, une très rapide et très brève introduction à l'économie de la connaissance. Un bien intangible en économie peut être appréhendé au travers de différentes propriétés, à savoir rivalité, excluabilité et généralité. Rivalité et excluabilité sont des distinctions économiques qui sont liées à la nature précise du bien considéré, alors que la généralité, par contre, va être liée au champ d'application. C'est-à-dire que cela va permettre d'évaluer, de déterminer la nature, la valeur d'un bien en question, considérable. Rapidement, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, rivalité. Un bien qui est rival serait un bien qui ne serait pas indéfiniment expansible sans une perte intrinsèque de ses qualités. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être possédé et utilisé par autant de personnages qu'il l'aimerait. Un exemple précis, ce rétroprojecteur est rival. En l'occurrence, à l'heure actuelle, je l'utilise, vous ne pouvez pas l'utiliser. Un autre exemple, Monsieur X, le débitage de pied de table par Monsieur X signifie qu'au moment précis où Monsieur X utilise sa tronçonneuse pour débiter les pieds de table, personne d'autre ne peut le faire. Ou alors, plutôt, personne d'autre ne devrait le faire parce que les choses pourraient commencer à finir et à devenir particulièrement sanglantes. Alors, formulé de manière assez manichéenne, entre guillemets, je dirais que une connaissance incorporée, donc une connaissance tacite, en soi serait d'ordre plutôt rival. Alors qu'une connaissance codifiée, que vous trouverez dans les bouquins, qui sera transmissible aisément, serait, elle, d'ordre plutôt non rival. Là, je parle vraiment d'une approche manichéenne, différenciation, sans chercher à faire de. C'est critiquable en soi, mais on y viendra après. L'exclusivité, maintenant. Ça, c'est lié à la notion d'appropriation à proprement parler. Ce qui veut dire qu'un bien exclusif ne peut être approprié, gardé, que par un seul utilisateur, au niveau nominatif, je signifie bien. Donc, la table que Monsieur X a achetée est la sienne. Et en ce sens, c'est un bien exclusif. Reformulé de manière assez disgracieuse, cela sous-entendrait que les connaissances tacites et ou incorporées seraient exclusives, de nature plutôt exclusive. C'est ce qui formerait quelque part des capacités du génie scientifique, je ne sais pas précisément, des capacités d'explication qu'un étudiant en première année n'aurait pas, et qu'à force de pratique, on aurait pu acquérir. Et les connaissances codifiées, elles, seraient moins exclusives que les connaissances tacite et incorporée. 3,5. Alors, maintenant, si on considère la science du débitage de pied de table comme un ensemble de petites bouts d'informations qui seraient appréhendables au travers de deux manières absolument extrêmes, avec, bon d'accord, je l'accorde, des degrés intermédiaires. Et je vous accorde aussi qu'on pourrait essayer d'étendre notre exemple, non pas seulement à la science du débitage de pied de table, à l'aide d'une tronçonneuse, mais aussi de n'importe quel type de science. Alors, si je résume tout simplement, ma connaissance codifiée serait non rivale et difficilement exclusive, donc serait assimilable quelque part à ce que l'on qualifierait de bien public, alors que ma connaissance tacite serait rivale et exclusive. Donc, serait assimilable à ce qu'on pourrait qualifier de bien privé. La généralité, notre dernier champ d'application, qui est donc lié au champ d'application en tant que tel, va être lié au potentiel économique, lié à une notion, la généralité, qui est intrinsèquement dynamique. À savoir que si je me réfère à Calon 95, toute existence de causalité va impliquer la possibilité de l'existence d'une généralité. Dit plus précisément, si on suppose que du résultat d'un test élaboré, un métal quelconque est découvert qui aurait des propriétés désirables, par exemple de résistance aux très hautes chaleurs et aux très hautes températures. Dans le cas où un autre inventeur serait intéressé pour examiner un matériau, un métal qui serait lié pour ses propriétés physiques, par exemple, mais qui serait lié donc au niveau de ses capacités de résistance à la chaleur, il utilisera dans ce cas-là une information qui sera déjà découverte. Et donc la découverte initiale, l'innovation initiale, va acquérir peu à peu des capacités de généralité. Vous voyez ce que je veux dire? Le champ d'application va peu à peu s'ouvrir de par l'évolution du produit derrière. Parce que on peut avoir des incrémentations, des innovations incrémentales en partant de la base de notre première innovation. C'est en train de merder au niveau de la présentation. Je ne sais pas si j'arriverai à finir, mais j'espère. Bon, résumé. Nature de notre bien. Exclusif, non exclusif, exclusif. Donc, non rival, on pourrait les qualifier de bien public ou. Donc, un bien non rival et non exclusif serait un bien public. Un bien non rival, mais par contre exclusif, serait un bien de club. C'est-à-dire un bien où, imaginons, il faudrait prendre une carte de bibliothèque pour pouvoir emprunter un bouquin dans une bibliothèque. D'accord? Un bien rival, mais non exclusif, serait un bien partagé à l'accès, dont l'accès serait ouvert, et un bien rival et exclusif serait un bien privé. Ça, je me base sur les écrits d'Arrow et son article de 62 en particulier. Et on va donc trouver, là encore, essayer d'appréhender ça de manière un peu manichéenne, trouver un optimum d'ordre statique qui serait plus d'ordre en cas autour de la notion d'exclusivité. On aurait plus un intérêt d'ordre économique à la présence d'exclusivité et d'ordre social à la non-exclusivité. À l'opposé, le comportement économique serait plus intentionnellement d'ordre intangible lorsqu'on serait en présence d'une non-rivalité, puisque les idées ne sont pas rivales par définition, et tangible, au contraire, en présence d'une rivalité, ma tronçonneuse. Ça définit donc l'importance, on peut commencer à entreapercevoir ici l'importance du contrat de licence qui va définir précisément la nature du bien intangible, la nature du contrat d'appropriation. Bon, on va revenir à notre quatrième dimension parce que ça va être plus intéressant. Donc, les biens intangibles et la propriété intellectuelle. DRM, Digital Rights Management, outil de gestion des droits d'auteur. Le but est de tordre les noix naturelles quelque part pour essayer de créer un nouveau produit non naturel au vu des règles de fonctionnement actuelles. C'est-à-dire tordre ce qui pourrait sembler être les lois naturelles pour permettre une commercialisation derrière. Et comment est-ce que tout cela a commencé précisément ? Je vais vous présenter brièvement une petite histoire liée à l'industrie audiophonique qui fut la première à utiliser à très grande échelle les médias et les documents d'ordre numérique. Alors, initialement, on va parler d'une analyse de style chaîne de porteur de l'industrie musicale avant l'introduction de notre disruption, c'est-à-dire de notre cassage de paradigme. Qu'est-ce que l'on a, notre industrie musicale ? Ben, ma foi, on a des artistes, bon, ça c'est évident, on a une technologie, on a un ensemble de services, et puis on a un secteur oligopolistique qui est contrôlé par ce qu'on qualifie les majors. C'est-à-dire production et édition inclus, donc AOL, Time Warner, EMI, Vivendi, Universal, Sony Music, Bertelsmann et compagnie. On a un réseau de vente sous-jacent qui est sous contrôle direct ou indirect, mais qui est effectivement sous contrôle. On a peu de nouveaux entrants potentiels. On a quasiment pas de produits de substitution. Je vous parle avant de l'ère Internet, fondamentalement, avant l'arrivée de l'informatique personnelle à proprement parler. Et on a un système de propriété intellectuelle basé, qui aura un peu évolué autour d'accords d'ordre politique et surtout d'un très intense travail de lobbying, mais qui fait que le système, voilà, est comme ça, et on se retrouve relativement figé. Et après tout, surtout pour les membres du secteur oligopolistique en question, il est difficile de trouver un système qui permette d'obtenir des rentes meilleures. Maintenant, notre point de chute et notre point de cassage. Internet est le peer-to-peer. Si jamais on se réfère, par exemple, à peu près, bon, on va dire 99 à peu près, l'introduction de Napster. Nos barrières à l'entrée explosent littéralement. On a donc une situation où les artistes sont, en l'occurrence, par rapport à Napster, ça a été justement le problème, pillés pour apparaître sur des outils d'ordre de type peer-to-peer, en l'occurrence Napster, en se basant sur des technologies particulières qui, à l'époque, sont en train d'exploser, le MP3 et les graveurs de CD par la suite, et surtout sur une notion absolument fondamentale et qui aura beaucoup expliqué le succès de l'opération, la gratuité. Et donc, un passage des artistes par les produits de substitution vers les consommateurs en écartant nos cases initiales. Cela aurait pu faire apparaître un nouveau business model derrière, faire apparaître une nouvelle méthode de gestion de la problématique, de la diffusion et de la rémunération des artistes en se basant sur les technologies actuelles. Cela aurait pu, oui, mais ça ne l'a pas fait. Si je me réfère à mon dinosaure initial, ben le dinosaure initial sera de retour. Pour quelle raison ? Déjà, il est puissant, particulièrement puissant. Là, je vous parle de la Recording Industry Association of America, qui va être allé jusqu'à avoir des influences dans le cadre de traités internationaux, dont on parlera un peu après, et qui va surtout avoir réussi à modifier largement le cadre de la propriété intellectuelle en travers d'un lobbying extrêmement efficace. Ce cadre de la propriété intellectuelle, en l'occurrence, peut-être entendu parler une fois ou deux, je pense qu'on y reviendra dans les journées suivantes, du Digital Millennium Copyright Act, qui sont des implications de traités internationaux, ça on va y venir un peu plus tard. Donc l'EUCD est un autre exemple de ce type de modification de la législation du droit d'auteur, et l'introduction de technologies, donc nos Digital Rights Management, qui font qu'au final, on a eu des acteurs qui sont venus sur un marché, qui ont apporté une certaine, qui ont apporté une possibilité, laissé entreapercevoir une possibilité de diffusion, et que ces acteurs eh bien, se retrouvent à nouveau muselés et séparés du jeu en question, de la distribution des œuvres audiophoniques en l'occurrence. Alors, de la même manière que les voitures ont remplacé les chevaux et les charrettes, Internet remplacera la plupart des rôles réalisés par l'industrie de l'enregistrement, l'industrie audiophonique actuelle. Ça, c'est une interview du 7 juillet 2003 de Ian Clark, le créateur de Freenet, sur CNET, sur news.com. Histoire et création de culture initiale. Ce que je veux vous présenter rapidement pour continuer sur les raisons de ces modifications derrière, c'est on parle très souvent déjà de droit d'auteur et de copyright en faisant un amalgame entre les deux. Ce qui est une erreur assez grossière parce que fondamentalement, même d'un point de vue d'une approche philosophique, les deux choses sont radicalement différentes. Pour quelles raisons ? Eh bien déjà, on a une première approche, première philosophie qui vient du droit civil français et qui va mettre l'accent sur les droits moraux ou les droits naturels des auteurs, droits d'auteur. À l'opposé, l'autre, dérivé du droit commun que l'on applique par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, va mettre l'accent sur l'argumentation économique, copyright, droit de la copie. Déjà, on a deux logiques radicalement différentes. Mais on a surtout une logique, donc deux approches différentes qui vont avoir une tendance vers l'homogénéisation.
Le copyright n'a jamais été issu de la common law. Le copyright a toujours été un privilège accordé par les rois, mais il n'a pas été issu de la common law.
Qui est à l'heure actuelle.
Ils peuvent peut-être prétendre que c'est issu de la common law, mais historiquement, le copyright n'est pas issu.
Par rapport au statut of hand, tu parles des compagnies enfin des,
Le statut, c'est la loi qui est légiférée ou bien par le roi ou bien par une assemblée et qui est donnée comme statut de goût. Le copyright est toujours été dans les statuts, il n'a jamais été common law. Par opposition, par exemple, au trademark. Les trademarks sont nés de la common law. Mais le copyright, avant de devenir de passer dans les statuts, mais le trademark a toujours été dans les statuts.
Bon,
merde alors.
La common law, c'est la loi qui émerge naturellement du fait que quand des personnes cherchent la loi qui est imposée autoritairement par celui qui a la force, qui dit ça, ça appartient à lui, ça, ça appartient à lui. C'est deux choses différentes.
Il y en a une qui est basée sur une jurisprudence et l'autre qui est basée sur un texte de loi qui va figer la chose. Mais il me semble quand même que dans le domaine de la gestion du copyright aux États-Unis, il y a pas mal de problématiques qui sont basées justement sur des décisions d'ordre jurisprudentiel. Et en ce sens-là, l'approche et le caractère, de toute façon, la distinction était particulièrement manichéenne en elle-même aussi, je te l'accorde. C'était pas le but non plus de reprendre ce qui a pu être fait précédemment, mais t'as raison. T'as raison aussi. Bon. Il est très difficile dans une présentation en anglais de faire la différenciation entre copyright et copyright. Ce que j'ai vu avec un professeur de propriété intellectuelle sur Strasbourg qui bosse au CEPI, c'est qu'on est arrivé à l'orientation d'avoir un common law oriented copyright et un civil law oriented copyright ou la mentionnelle du droit d'auteur. Mais si tu veux t'exprimer en anglais, bon, je termine l'encart, mais en anglais, faire la différenciation entre droit d'auteur et copyright, c'est difficile. C'est très difficile parce que ce sont les deux termes qui sont employés. C'est pour ça que j'utilise cette appréciation-là. Bon, bref, notre système du copyright, comme c'est en français, c'est plus simple. L'auteur va être le désigneur de son travail, donc il va le posséder quelque part. Comme notre copyright est une orientation économique, un droit orientation économique, qui organise tous les droits qui sont liés, cela organise tous les droits qui sont liés à la production intellectuelle. Donc, l'auteur et la production en tant que telle sont dissociés l'une de l'autre. À l'opposé, notre droit d'auteur, l'auteur va conserver des droits spécifiques sur sa production intellectuelle. Cela signifie que l'auteur va rester le garant de sa production dans le sens que le système va organiser des droits orientés spécifiquement vers l'auteur. Et en particulier, l'auteur et la production intellectuelle sont indivisibles en tant que telles. Et ça, c'est particulièrement important parce que les différences que l'on a là commencent et sont de plus en plus de par l'action de ce que l'on qualifie de droit voisin, de plus en plus dans le cadre de leur évolution, en train de se rapprocher. Et on a donc des différenciations d'ordre philosophique qui sont sous-jacentes à ces deux concepts et qui sont peu à peu en train de se rapprocher, au niveau de l'importance en particulier du producteur par rapport à l'œuvre. Ce qui signifie qu'on est en train, quelque part, de modifier. Il y a eu donc une tentative de modification de la culture pour arriver à une certaine convergence. Et cette convergence est particulièrement bien illustrée si jamais on se réfère au chapitre introductif de la directive européenne, donc la directive relative au copyright, EUCD, European Union Copyright Directive, du 22 mai 2001, donc la 2001-29-CE, qui, au niveau de la justification à son existence, parle en particulier de termes qui sont réellement en rapport et basés sur une approche purement économique et très très peu sur l'aspect, la justification, la protection par rapport à l'auteur. C'est une chose importante à noter car dans le cadre de la justification à la nécessité des modifications du droit d'auteur, les majors, par exemple, dans le cadre de l'industrie musicale, précisent bien qu'on va modifier, on introduit de la DRM parce que les méchants personnes qui partagent des MP3 pillent les auteurs. Donc, l'argumentation se base en insistant sur la nécessité de protéger des auteurs, alors que l'orientation des lois à l'heure actuelle, peu à peu, sépare et enlève les prérogatives qui ont été accordées aux auteurs en tant que tels. Donc, une importance économique particulière. Alors, si jamais on vient un peu en arrière par rapport au DMCA et à l'EUCD, et on en vient à l'Uruguay Round et aux ADPIC. Troisième partie relative aux ADPIC, ce sont les premiers traités, donc au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, les premiers traités internationaux qui vont essayer de mettre en place un système juridique pour forcer à empêcher le contournement des systèmes de protection du droit d'auteur et forcer la société, quelque part, à entrer dans notre système de la petite histoire, dans notre monde intangible. En particulier, si je me réfère dans la première section aux obligations générales à l'article 41, on voit qu'il y a une obligation des États signataires du traité en question de mettre en place des actions effectives contre tout acte de contournement et de copie ou autre, de violation, voilà, merci, de la propriété intellectuelle. Et il faut aussi interdire remedies which constitute a deterrent to further infringements shall be applied to such a measure. Donc, empêcher le contournement et la production d'outils qui puissent permettre là aussi des violations ultérieures. La nécessité donc de mettre en place une législation précise qui va empêcher tout ça. De même, au niveau de l'Office mondial de la propriété intellectuelle, le traité relatif aux droits d'auteur adopté au niveau de la conférence diplomatique du 20 décembre 1996 va spécifier dans son article 11 que les parties contractantes vont devoir produire une protection légale adéquate et effective de manière à empêcher le contournement de toute mesure technologique effective, entre guillemets, d'ailleurs, sans préciser réellement à quoi cela signifie, qui sont utilisées par les auteurs en connexion avec l'exercice de leurs droits sous le couvert de la Convention de Berne, et qui vont essayer d'empêcher des actions qui vont restreindre ou toute action qui ne sont pas autorisées par les auteurs ou non permises par la loi au niveau du contournement. Ce qui signifie que, quelque part, le rêve de hier, donc pour notre tronçonneur de pied de table, le futur numérique, quelque part, était un rêve. Alors, évidemment, en anglais, ça passe, mais en français, ça ne va pas du tout passer. Donc, une réduction décisive de l'élévation de la table, sous-entendu, ajustée aux modalités d'usage. Donc, ce qui signifie que les rêves de hier deviennent la DRM d'aujourd'hui. DRM d'aujourd'hui, notre quatrième dimension. Donc, pour notre fabricant de table, le futur numérique, c'est DRM. C'est un moyen de diversifier le marketing direct. Pour notre fabricant de tronçonneuses, par contre, le futur numérique, c'est aussi DRM. C'est un changement radical au niveau de ses parts de marché potentielles. Pour notre tronçonneur de table, le futur numérique est malheureusement DRM. Donc des rêves réalistement en deuil, mis en deuil. Et pour certains juristes en question, eh bien, le futur est magnifiquement DRM, un sacré maximisateur de revenus. Alors, passer du rêve au DRM, une petite illustration. Donc, je précise, c'est un schéma qui est inspiré des travaux et d'une conférence de Lessig qu'il a réalisée en 2001. Alors, si jamais je me réfère aux différents usages et possibilités autour d'un bien analogique tel quel, je prends mon livre. Bon, mon livre, qu'est-ce que je peux en faire ? Je peux le copier, je peux le publier, je pourrais le publier, je pourrais en tirer des citations, je pourrais le lire, je pourrais le prêter, je pourrais le vendre, je pourrais le détruire. En cela, j'avais précisé derivant, bon, c'est pas grave. Mais en cela, l'approche en termes de droit d'auteur va discerner des actions régulées, en l'occurrence la copie, la publication, voire même la réalisation de certaines citations, et des copies des actes liés à notre bien non régulé tel quel, c'est-à-dire la lecture, le prêt et la vente. Dans un système, par contre, de copyright, on va avoir une autre partie qui est pas mal mise en avant, qui s'appelle le fair use, qui n'existe pas dans le système de droit d'auteur, et donc où on va avoir certains usages qui seront régulés, d'autres usages qui ne seront pas régulés tels quels, mais qui seront assimilés à ce que l'on pourrait qualifier d'usage équitable dans un cadre d'une notion d'efficience économique, et un ensemble d'usages, là aussi, non régulés à proprement parler. Bon, à part la first sale doctrine et compagnie, mais bon, pas dans le système tel quel. Maintenant, si jamais on assimile notre livre passe au format électronique, e-book, et on introduit des mesures de protection et de respect du droit d'auteur. Eh bien, on va avoir une modification radicale, et en fait, l'ensemble de ces usages seront régulés. Pour quelle raison ? Parce que ce n'est pas le fond que l'on va protéger, c'est la forme. C'est-à-dire que le document numérique qui va encapsuler la connaissance telle qu'elle, cet usage-là précisément, de par les implications de la directive européenne 2001-29-CE ou du Digital Millennium Copyright Act, qui a suivi son histoire dans le cadre de l'application des traités internationaux que l'on a vu précédemment, eh bien, il n'y a pas le droit au contournement de ces mesures-là précisément, d'accord ? De ces mesures de contrôle, et où du coup, eh bien, on va pouvoir décider ce document numérique si jamais je vous autorise à le lire, si jamais je vous autorise à le détruire et compagnie. Donc, nos usages non régulés et le fair use du copyright dégagent. Donc, la DRM est là pour protéger quoi ? Le système du droit d'auteur, la restriction de la copie ou contre une certaine dynamique de marché ? Parce que si jamais Monsieur X, pour revenir à notre très cher monsieur, achète un DVD, s'il achète un CD audio, en particulier se protéger par des mesures qui incluent déjà des outils de protection de DRM, si Monsieur X achète un livre numérique e-book, eh bien, on ne va pas lui donner des usages, on ne va pas l'autoriser à des usages qui ne seraient pas régulés tels quels. Il n'y aura pas, dans un système de copyright, de fair use non plus derrière. C'est-à-dire que quelque part, des biens qui sont dans le domaine public, en particulier, on peut penser à des bouquins de philosophie, des écrits d'Aristote ou je ne sais quoi, seraient quelque part des biens publics qui seraient transformés en biens privés. Parce que précisément, on va accéder à cette notion de rivalité et d'excluabilité derrière. Donc, notre arithmétique de la tronçonneuse, quand je vous avais présenté en première partie, est complètement inutile. Alors, le problème n'est pas forcément à propos de l'appropriation. Le problème, c'est aussi la possibilité de la manipulation et de la lecture du bien et des répercussions globales des changements à des règles donc qui vont gérer de manière globale un système qui est confronté à des problématiques plus d'ordre local. Le piratage, par exemple. Ce n'est pas parce qu'il y a du piratage que toute la propriété intellectuelle est achetée. Au contraire. Donc, forcer tout le monde à rentrer dans notre quatrième dimension, pourquoi? Pour arrêter le piratage, officiellement. Pour restreindre les libertés, peut-être. Et malheureusement, certainement. Mais le piratage. Ben, prenons un exemple, les méthodes de quantification du piratage du Business Software Alliance, issues du Business Software Alliance, qui sont réutilisées derrière par la majorité des gouvernements bruts, nets de fonderie, sans réelle remise en question forcément des nombres qui sont fournis derrière. Alors, qu'est-ce que l'on a? Une évaluation de la demande par les membres du BSA. Donc le BSA, vous savez, lobby d'influence regroupant les plus grands éditeurs de logiciels propriétaires. Donc une estimation de la demande fournie par les membres du BSA, basée en particulier sur les ventes de nouveaux PC, tout un ensemble de choses, moins les ventes de logiciels actuelles, donc reportées par les membres du BSA. Donc, en gros, combien de PC capable de faire tourner les logiciels y a de vendu dans le monde, moins combien de logiciels à moi j'ai vendu. À partir de là, on peut avoir un piratage net, entre guillemets. Alors notre piratage net, brut, pardon, brut, brut. Notre piratage brut multiplié par un particulièrement obscur, et alors là par contre sur le site du BSA pour réussir à trouver l'explication, chapeau si vous y arrivez, donc un coefficient de développement na national technologique, ce qui censerait prendre en compte la capacité de développement et la différenciation au niveau du développement entre un pays occidental développé et un pays du tiers-monde, par exemple, va nous donner notre piratage net. À partir de là, bon, bah, c'est tout simple. Piratage net divisé par le nombre total de logiciels installés, que je reprends de ma première case ici, me donne le taux de piratage. Et le piratage net, multiplié par le prix unitaire de chaque logiciel, va me donner mes pertes réelles, sous-jacentes. Je vais y venir, je vais y venir. Justement, c'est un des problèmes. Alors, au niveau des résultats, je veux déjà indiquer une première chose, parce que je pense qu'il y a un danger dans la part de ce type de présentation à faire une certaine, à être classifié comme étant apologiste du piratage. Ce n'est absolument pas le cas, et j'estime que les auteurs doivent être rémunérés pour leurs travaux derrière. Je parle de copie. Oui, copie illicite. Copie illicite. Oui. De contrefaçon. Oui, pas bien, pas beau. Donc, le piratage est un vrai problème, mais la méthode, l'approche quantitative du BSA pour évaluer ce taux de piratage est biaisée. Pourquoi elle est biaisée? Parce que si jamais on l'analyse un peu, on voit qu'il y a de graves difficultés et problèmes méthodologiques. En particulier, quid de l'open source et du logiciel libre, parce que ça va au-delà du logiciel libre. Donc, eh bien, il faut savoir qu'un tout système d'exploitation d'une personne ou d'une société tierce non membre du BSA qui serait préchargée sur un PC, et qui en particulier, on peut penser à Windows préinstallé sur les PC vendus par Walmart aux États-Unis, qui du coup sont des PC à moins de 150 $ pièce. Eh bien, ça sous-entend qu'il y a un système d'exploitation d'un des membres du BSA qui a été piraté derrière. Autre chose, un PC vendu sans application, par exemple sans suite bureautique, eh bien forcément dans les statistiques, il va y avoir une suite bureautique qui a été piratée et qui va apparaître derrière aussi. C'est un moyen particulièrement simple de réussir à gonfler pas mal des chiffres et ensuite à justifier une radicalisation de la propriété intellectuelle vers les intérêts de certains groupes de pression et de lobby en particulier. Le logiciel libre est en dehors du jeu, et en sens que la licence est soit fermée et membre du BSA, soit elle n'est pas tout simplement. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre petit exemple assez rigolo au niveau des implications de l'évolution de ce type des implications de l'évolution de ce système de droit d'auteur et en particulier du Digital Millennium Copyright Act. Je vous parlais d'une petite histoire qui est arrivée en avril 2003 et qui a opposé la Recording Industry Association of America contre quatre jeunes étudiants. 10 minutes? D'accord. Contre quatre jeunes étudiants, Daniel Jonathan Pang, Jesse Jordan, Joseph Nivelt, et Aaron Sherman, donc quatre étudiants, tous âgés de 18 à 20 ans à l'époque des faits, ce qui n'était pas il y a si longtemps que ça. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors, Daniel Jonathan Pang. Eh bien, il a travaillé sur un outil de recherche appelé Wake, basé à un outil, un outil de recherche donc type araignée, c'est ce qu'on dit en français ou pas ? Hein ? Voisinage réseau, enfin de recherche automatisée, des outils, un agent de recherche, oui, basé sur les dossiers partagés autour du protocole SMB, qui est donc le protocole de partage, vous connaissez, le protocole de partage intégré dans les outils Microsoft en particulier, dans des réseaux locaux. Quelles ont été les charges à son encontre ? Dont, bien évidemment, violation de droits d'auteur, et d'avoir transformé un réseau destiné à l'éducation supérieure et à l'éducation en tant que telle en un centre emporium, un centre monumental du piratage musical. Deuxième exemple, Jesse Jordan, lui aussi toujours la même chose, des agents de recherche de dossiers partagés qui listaient donc sur une page centralisée les différents dossiers partagés au sein d'un réseau local, au sein d'une université ou au sein d'un centre de recherche. Là encore, viol volontaire et de droits d'auteur. Aaron Sherman, toujours la même chose, les mêmes types d'outils de recherche sur des réseaux locaux dans le cadre d'universités. Celui-là a été particulièrement utilisé et déjà diffusé dans pas mal d'institutions, en particulier l'Université du Texas. Et là encore, viol du droit d'auteur, plus avoir débuté une entreprise privée pour essayer potentiellement de réaliser des profits issus de viol du droit d'auteur. Et notre dernière personne, pour aller vite, Joseph Nivelt, qui lui aussi aura créé un outil destiné à la recherche de partage sur de partage de fichiers Windows et donc de documents partagés sur Windows sur des réseaux locaux et viol de droit d'auteur. Alors, je veux préciser une première chose, c'est que ici, c'est l'application de notre arithmétique de la tronçonneuse sous stéroïdes. Il faut savoir que le droit d'auteur, le copyright américain, permet d'évaluer des dommages allant de $750 à $150 000 pour chaque chanson offerte de manière illégale sur un système partagé par une personne qui n'en aurait pas les droits. D'accord ? Et que là, on parle au niveau des charges retenues contre les personnes, on parle de possible copyright infringement. On ne parle pas de copyright infringement tel quel. Donc là encore, c'est comme ma tronçonneuse. C'est un outil qui peut être utilisé pour lister des MP3, mais qui, ma foi, ne faisait pas que ça et qui n'était pas destiné à faire ça spécifiquement, mais qui a aussi pu être utilisé à faire ça, bien évidemment. Mais qu'on n'est pas... Hein ? Ça peut trouver les corrigés des cours, ça peut trouver les PDF, des publications, des trucs. Il y a des MP3 qui sont distribués avec des licences libres, on est tout à fait d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas ici en présence d'un outil comme Napster. Quels sont les dommages qui ont été demandés par la RIA initialement ? On va jouer à un petit jeu. Au niveau de la somme globale pour les quatre, parce qu'ils ont fait le procès pour les quatre. Le but, c'était de taper sur les étudiants derrière. La somme évaluée au niveau des dommages a été évaluée à 90, 97, 800. Vous avez une idée pour remplir les cases ? Non ? Vite, 1, 2, 3, allez. Donc, 97 800 000 000 de dollars. 97 milliards 800 millions de dollars. Alors, à titre informatif, le Luxembourg, qui est certainement le pays le plus pauvre au monde, hein, un des petits pays du tiers-monde, je raccourcis, a un PIB cette année, en 2002, vous pouvez aller voir sur CIA World Factbook, de 20 milliards de dollars. C'est à titre informatif. Pour vous donner une idée du rapport. À quatre types, c'est le casse du siècle. Premier procès qui a donné un résultat, c'était la RIA contre Jesse Jordan. Il y a eu bien évidemment un accord à l'amiable parce que c'était fondamentalement, quoi qu'il condamne à pas mal de milliers d'années de prison, de toute manière, ça ne les dérange pas trop, mais bon, il y a eu un accord à l'amiable qui a été passé avec Jesse Jordan et le résultat, c'était simplement ses économies au niveau du fonds de pension qui avait été pris par ses parents pour pouvoir préparer un petit capital pour son futur et au niveau donc $12 000. Les autres règlements à l'amiable sont tous finis, sont tous passés aussi et tous ont été établis entre $12 000 et $17 000. Tout simplement, il faut bien savoir que là, ce sont des étudiants qui n'avaient pas de quoi aller de front, mener une bataille juridique sur 4 ans, contre des personnes qui ont une quantité de pognon absolument monstrueux et qu'il était réellement de leur intérêt de régler la chose maintenant plutôt qu'aller essayer d'aller de l'avant, même si jamais ils pouvaient estimer avoir raison, et ils estiment tous encore à l'heure actuelle avoir eu raison. Petite histoire numéro 2, lorsque l'information telle qu'elle a été publiée en avril et en mai sur Slashdot, il y a eu des appels à contributions qui ont été faits et tous ont récupéré les capitaux par le biais de dons privés et tout un ensemble de choses. Alors, juste une petite chose, très rapide, un petit encart. Je vous ai parlé de recherche sur le protocole SMB. Alors, on va faire un petit encart parce que là, on parle vraiment de méchants pirates et il me semblerait assez intéressant de s'introduire comme ça dans des notions extrêmes du piratage. Et en particulier, je voudrais vous présenter un crawler anémique, bon d'accord, particulièrement, je veux dire, stérile et pas très efficace, mais ma foi, qui est capable de réaliser pas mal d'actions de piratage. Et gardez-le pour vous. Par contre, ça peut faire rire, mais de manière plus grave, les décisions qui ont été prises là laissent la porte ouverte à pas mal de problèmes, et en particulier à des agents de recherche sur le web, et là je pense particulièrement à Google ou des choses comme ça, où on peut trouver donc des outils qui vont bien sûr mordre sur le droit d'auteur derrière et avoir une jurisprudence qui peut peu à peu s'établir. Bien que là, il n'y a pas eu de décision de justice, mais en tout cas, est-ce que ça serait la première étape? Parce que le but, c'est quoi? C'est le contrôle de la dissémination des connaissances. Je fais court. Le but, c'est le contrôle de la dissémination des connaissances. Entre une population, si jamais je cherche à établir ma population sur un graphique entre la quantité et le niveau d'expertise de la population, les capacités de maîtrise au niveau de la technologie, telle qu'elle. Bon, on va partir du principe qu'il y a plus de monde qui en connaissent un petit peu que de monde qui n'en connaissent pas du tout, au moins un minimum au courant. Mais bien évidemment, plus le niveau d'expertise va augmenter, moins il y aura de gens. La problématique, c'est l'établissement du contrôle. Et que plus vous cherchez à étendre votre contrôle sur une population, en élevant le niveau de contrôle et en englobant une partie de plus en plus importante de la population à contrôler, eh bien plus vous allez mordre sur les libertés fondamentales de la société derrière. Parce que qu'est-ce que serait le contrôle? Bon, on a parlé très rapidement de Trusted PC. Là, je crois qu'on va faire très court. Donc, la modification du hardware, la modification des règles et de la régulation, et surtout, l'attente que les lois aient été votées et que les règles aient été modifiées avant d'introduire le nouveau hardware. Ça, en particulier, c'est le cas par rapport à certaines techniques. Et en particulier, l'introduction du DMCA a été concordante à l'introduction du DVD, à titre d'exemple. Alors, quid de l'innovation là-dedans? C'est une des parties les plus importantes de ma présentation, Schumpeter. Comme d'habitude, on y revient, bien que le texte soit de 1942, on peut croire qu'il y a des classiques. Le capitalisme, alors je ne vais pas vous lire la chose en entier, mais déjà le rouge, ça serait pas mal. L'impulsion fondamentale qui va lancer et conserver le moteur capitaliste en marche vient des nouveaux acheteurs, des nouveaux biens, des nouvelles méthodes de production ou de transport, des nouveaux marchés, de nouvelles formes d'organisation industrielle que les entreprises capitalistes vont créer. Donc, nouveauté. On va introduire la notion de mutation qui sera liée à l'économie évolutionniste, mais là, on n'a vraiment pas le temps. Quoi qu'il en soit, l'introduction constante qui vont révolutionner la structure économique de l'intérieur, de manière incessante détruire la vieille et de manière incessante en créer une nouvelle. Ce processus de destruction créatrice est un fait essentiel du capitalisme. C'est ce en quoi le capitalisme consiste et c'est ce que chaque capitaliste devrait être concerné et a à vivre avec. Un fait essentiel du capitalisme, la destruction créatrice. En l'occurrence, l'introduction des textes que l'on voit là vont museler cette destruction créatrice. Et je pense qu'on a tous des exemples. Skilarov, on a tous, je veux dire, déjà, il commence à y avoir, à montrer les limites, justement, de cette rigidification et d'empêcher cette destruction. De la même manière que la Recording Industry Association a pu lutter comme ça contre l'apparition d'un nouveau business model lié à des outils orientés Internet. En 99, je parle. Donc, quid de ma tronçonneuse? Le but, quelque part, c'est peut-être d'être créatif, d'être destructif, d'être innovant, d'avoir le droit de débiter des pieds de table librement, de faire des grands moulinets avec sa tronçonneuse, d'être libre. Et peut-être quelque part que la solution, eh bien, tient tout simplement dans le logiciel libre, ou tout du moins dans sa philosophie. Merci de votre attention. J'attends vos questions. Sure. Well, it depends. It depends if you are. Yeah, but you're right. You're right. Which is the case for Jan Johansen, for example. And Skilarov, too, yeah. Vas-y. Pas complètement bidon. Pas complètement bidon. Et c'est certainement. La propriété est une notion fondamentale.
Non, non, c'est pas.
Non, mais bon.
C'est du protectionnisme. C'est bien vu le legal protection dans les accords WIPO. Ça saute au visage. C'est du protectionnisme. Toute l'argumentation, c'est l'argumentation protectionniste. Et d'ailleurs, même au 19e siècle, l'argumentation pour la propriété intellectuelle, c'était complètement protectionniste. Et jamais, du point de vue argumentatif, ils ont gagné. Simplement, c'est du point de vue des lois. Ils ont réussi à faire voter des lois. Et à partir du moment où la loi a été votée dans un pays, ils étaient toujours dans les autres pays. Regardez, on est en retard sur la législation sur les brevets. Adopter les brevets aussi. La Suisse a adopté les brevets au 20e siècle. Pourquoi ? Parce que vous regardez, au 20e siècle, vous n'avez toujours pas des brevets dans votre pays. Vous êtes en retard. Mais du point de vue argumentatoire, vraiment économique, jamais ils n'ont vraiment des arguments solides.
Pour illustrer un peu cette problématique, il est intéressant de savoir qu'au 18e siècle, au 19e siècle, les États-Unis ne reconnaissaient pas le droit d'auteur étranger. Anglais en l'occurrence, mais du reste du monde même. De tout ce qui était produit à l'extérieur de leurs frontières était du domaine public. Point final. Donc forcément, ça facilite un peu le jeu et le développement interne, surtout. Mais à partir du moment où la position a été inversée, ils se sont retrouvés leaders, bien évidemment, chercher à asseoir leur système par rapport aux autres.
Mais ça, c'était normal dans plusieurs pays.
Oui, bon, ça a évolué.
Le premier accord, même bilatéral, en Europe, sont de 1930.
La Convention de Paris.
L'allongement de la durée du copyright et de la protection des œuvres, comme par magie, ça c'est donc bien démontré dans la présentation de Lessig, va s'allonger alors que Mickey Mouse va tomber dans le domaine public. Et dès qu'il va tomber dans le domaine public, hop, on rajoute 2 ans, 3 ans, 5 ans en fonction des différents actes. Les Sony Bono Act en particulier.
Merci à Mathieu pour sa présentation. La présentation qui suit ne sera pas pour les tronçonneuses.
À la volée, c'est pas simple.
Ah ben ouais. Hein.